IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'artiste Jean Binder qui nous rejoint maintenant sur IDFM Radio. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez été un ami proche de Jean-Jacques Goldman et puis vous avez sorti dernièrement un premier album qui s'appelle Une vie plus tard. C'était en novembre dernier avec un clip aussi pour la chanson Une autre histoire. Je ne sais pas où vous êtes parti, en tout cas c'est très beau et vous êtes à bord d'une magnifique voiture et puis vous vous baladez comme ça tout seul le long de la mer.
Voilà. C'était où, Dunkerque.
À Dunkerque.
En plein hiver. En t-shirt.
Mais il faisait beau ce jour-là.
Il faisait beau.
C'était assez lumineux quand même comme journée. Hein.
Dunkerque, c'est tout à fait étonnant parce que là où on a tourné, c'est dans les industries, derrière le port et tout. C'est très très loin de la ville. Et c'est un endroit, il faut des autorisations, mais c'est des plages de dizaines de kilomètres de long. C'était. D'où la voiture qu'on nous a prêtée. C'était pas prévu dans le clip. Enfin bon, j'ai suivi les réalisateurs. Voilà, j'ai eu très froid.
C'était la première fois aussi pour vous de mettre en lumière une chanson. C'était votre premier clip, non? Oui.
J'ai fait d'autres choses dans le passé pour d'autres personnes.
Oui, mais
etc.
là, mais
pour
avec moi, le voilà. nom de Jean Binder.
Voilà.
Parce qu'effectivement, vous avez...
Une vie plus tard, j'ai enfin pensé à moi. J'ai tellement écrit pour les autres que je me suis dit, c'est peut-être un peu ridicule de faire chanteur à mon âge.
Alors, vous avez écrit beaucoup, mais aussi vous avez été batteur. Hein.
Voilà, oui, j'ai
vous
commencé.
Avez pas, vous n'avez pas tellement chanté au début, c'était plutôt
non.
en tant que batteur au sein d'un groupe de rock.
Voilà. Après, j'ai quand même beaucoup chanté. Le départ, hein, pour faire court, mais je l'ai raconté dans un livre chez Albin Michel.
Qui est sorti en 2021,
batteur,
c'est ce livre-là.
Oui, voilà.
Il suffira d'un signe.
Voilà.
En référence à la chanson de Jean-Jacques Goldman.
Exactement.
Voilà. Oui,
mais
je
c'est
suppose.
Pas moi qui ai trouvé le titre, c'est Albin Michel.
D'accord.
C'est mon éditrice, donc j'ai trouvé ça très pertinent. Et non, voilà, le livre a pas mal marché puisque je suis un des rares proches de Jean-Jacques qui est bien connu avant son succès. Mmh. Parce que beaucoup de livres ont été écrits après son succès, donc tout le monde connaît sa carrière, mais avant. Donc en fait, on s'est rencontrés au Moyen-Âge en 1967.
Vous exagérez un peu. Non, mais vous étiez des gamins, des gosses, vous étiez des ados.
On avait 16 ans.
Quand vous vous êtes rencontrés avec Jean-Jacques Goldman et l'envie de créer un groupe.
Voilà, lui, il était déjà dans la musique parce qu'il suivait des cours de solfège. Enfin voilà, il était déjà très, très pointu en musique et voulait monter un groupe de rock. C'était un peu la mode à l'époque. Et dans ces années-là, il y avait que, entre ce qui venait des États-Unis et d'Angleterre, il y avait qu'à piocher, quoi. Et il cherchait un batteur. Et on était camarades de lycée. Et moi, je jouais, je massacrais un peu le piano, la guitare, et je jouais pas mal de, enfin, un petit peu de batterie. Donc il m'a engagé comme batteur. On a formé notre premier groupe. Alors c'est étonnant parce que, avec lui, on a fait le premier groupe, on a fait notre premier concert. Au lycée, lors de la fête de fin d'année du lycée, devant un vrai public. Et ça nous a... voilà, je crois que ça a déterminé beaucoup de nos destins. Et quelques années après, on a monté un vrai groupe, Phalanstère, avec d'autres amis, dont Chris et Alex Gibson, qui plus tard sont devenus...
Des Gibson Brothers à Cuba.
Voilà, et j'étais toujours batteur. Et pour répondre à votre question, donc 3 ans après, le groupe a cessé d'exister, on voulait chacun suivre des voies différentes. Et moi, j'avais la prétention de chanter. Donc, je me suis engagé dans d'autres groupes et pendant 2-3 ans, je n'ai fait que des tournées en France et à l'étranger en tant que chanteur. Et je connaissais déjà Daniel Balavoine, qui lui aussi était inconnu à l'époque et chantait dans un groupe qui s'appelait Présence et dont le batteur était notre manager pour Phalanstère. Et ensuite, il a continué à être mon manager dans d'autres groupes. Et c'est un personnage particulier. C'est un énorme chanteur. Mais il n'était pas très liant. Et à force de se rencontrer dans des festivals, on a créé une amitié. Il me dit, oh, c'est bien, putain, tu bouges sur scène. Moi, je ne sais pas bouger. Apprends-moi à bouger. Donc, je lui ai appris un petit peu à danser. Puis lui m'a appris à mieux chanter. Et on s'est lié d'amitié sur des petites choses comme ça.
C'est beau comme parcours.
Ouais, voilà. Donc, on était tous inconnus. Moi, je le suis toujours. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts pour rester inconnu. Et voilà. Puis après, avec Jean-Jacques, on a eu plein d'aventures. On s'est retrouvés. Il a écrit mes premiers. Enfin, il m'a donné plein de titres parce que je voulais signer dans une maison de disques. Lui, il se faisait refuser son album depuis des années avant que Marc Lambroso intervienne dans l'histoire. Donc, il désespérait de signer. Il me dit, ouais, j'aime bien ta voix. Je vais t'écrire des titres. Et le premier titre qu'il m'a donné, c'est « Je te promets ». que j'ai toujours en maquette. On l'a fait en maquette, c'est passé à Bonus Track avec Eric Jean-Jean. Il savait pas que j'avais créé Je te promets.
Eric Jean-Jean, animateur radio.
Il m'a donné plein de titres et je me suis fait jeter par toutes les maisons de disques comme lui. Voilà. Et puis lui, après, il a enfin signé chez CBS. Moi, j'ai un petit peu abandonné parce que j'ai travaillé pour les autres. J'ai fait de la pub, j'ai fait de l'illustration sonore, j'ai écrit pour des amis, des tas de titres et tout.
Vous avez préféré plutôt vous mettre en retrait finalement et de pas relancer.
J'avais pas le choix parce que on avait fait trois fois toutes les maisons de disques et je me suis fait virer. Lui a eu la chance de rencontrer Marc Lambroso qui a réussi à le faire signer chez CBS aujourd'hui Sony Music France, mais il s'était fait jeter déjà deux fois de chez CBS. Donc moi j'ai pas eu la chance d'avoir un commercial, et bon ben j'ai abandonné. Je me suis dit bon ben je veux dire il faut pas être obsédé, puis il faut vivre à un moment, il faut gagner sa vie. Donc j'ai fait plein de choses dans la vie autour de la musique.
Donc vous écrivez encore aujourd'hui?
Oui.
vous écrivez peut-être un petit peu plus pour vous aussi, puisqu'il y a cet album dernièrement.
Tout d'un coup il y avait eu un projet, je peux en parler comme ça, il y a pas d'animosité. J'avais eu envie, toutes les chansons qu'il m'avait données, en dehors de Je te promets, si tu veux m'essayer, Il changeait la vie, qui ont eu de succès avec les uns et les autres, plein de chansons qui étaient inconnues, mais que je trouvais vraiment excellentes. Et je dis à Jean-Jacques, bah, écoute, j'ai envie de les réorchestrer, de les rechanter. Et il dit, ok, vas-y. Et je fais cet album qui a pas vu le jour, qui s'appelle On est tous fans.
Qui sortira peut-être un jour ou pas du tout?
Non, je pense pas, parce que finalement, après coup, Jean-Jacques a pas voulu s'associer à ce projet. Donc, j'ai dit, écoute, on peut changer d'avis.
Donc, des chansons inédites qui auraient dû sortir.
Qui sont dans un tiroir.
Chantées par vous.
Qui sont chantées par moi, qui ont, Éric Jean-Jean d'ailleurs l'a écouté, venu en studio l'écouter, il a trouvé l'album très...
Vous êtes proche d'Éric Jean-Jean? Non?
On se connaît parce que, oui, grâce au livre, on s'est retrouvé sur beaucoup d'interviews dans des documentaires concernant Jean-Jacques. Et moi, je le connaissais de réputation. Et on s'est rencontrés comme ça. Ah, il m'a dit, mais je te connais, Jean-Jacques. Et puis je lui ai dit, tiens, je suis en train de faire un album avec des titres inédits. Je viens écouter. Enfin, bref, il m'a offert un bonus track, etc. Puis finalement, j'ai abandonné. Parce que je sentais que ça... soit je le faisais, soit Jean-Jacques était enthousiaste et on le faisait ensemble. C'était des souvenirs d'enfant, enfin d'adolescence, c'était sympa. Sinon, c'est pas grave. Et voilà pourquoi. Alors j'avais de nouveau envie de réécrire des titres. J'avais plein d'idées en tête. Alors j'ai écrit, je sais pas, une vingtaine de titres et j'en ai réuni une dizaine, 10-12 dans cet album. Et je me suis fait plaisir. Parce qu'après tout, on n'a qu'une vie et on peut être vieux, mais on peut continuer à créer, ça se voit pas. Je veux dire, on peut écrire à 20 ans, à 50, à 60. Donc voilà, j'ai fait cet album, très justement intitulé Une vie plus tard, puisque c'est bien une vie plus tard.
Vous avez toujours un petit peu contact quand même avec Jean-Jacques Goldman?
Là, en ce moment, non, c'est... Il y a un petit différent, enfin je ne veux pas trop en parler.
Non, il n'y a pas
de suite à des propos d'un journaliste d'un magazine dont je tairai le nom, qui ont déformé mes propos et qui ont un peu déplu à Jean-Jacques.
Oui, parce que vous intervenez quand même de temps en temps dans les médias. Vous avez été reçu par Cyril Hanouna, donc vous savez que vous allez aussi sur des plateaux où on peut vous chatouiller, vous titiller.
Bien sûr, alors,
et vous faire dire des fois tout
moi,
et n'importe quoi.
Moi, j'ai pas l'expérience de certains et l'expérience de Jean-Jacques vis-à-vis des journalistes dont il se méfie. Il a bien raison. Je suis un petit peu naïf, donc... mais... J'ai fait beaucoup d'interviews pour des télés. BFM a été très sympa avec moi, Paris Match, enfin je veux dire. Et là, je suis tombé sur un os. Il m'a amené à... Donc en off, je lui ai confié des choses qui étaient tout à fait réelles. Et il les a un petit peu améliorées, transformées. Et il en a fait un article. Et comme évidemment, c'est tombé dans l'entourage de Jean-Jacques. Ça lui était... Et là, il a pas aimé. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, je m'en excuse. On aurait dit des choses pareilles sur moi, je l'aurais pas aimé.
C'est sûr.
Surtout vis-à-vis d'un ami. Donc on s'est un petit peu, pas fâché, mais un peu éloigné, c'est pas grave. C'est pas grave.
Il a arrêté, on le reprécise, Jean-Jacques Goldman, à peu près sa carrière. Il avait un petit peu plus de 50 ans.
Oh, voilà, oui, ça fait longtemps.
Il a travaillé quand même un petit peu pour certains artistes,
oui,
à un moment donné, comme ça. Je crois qu'il avait...
Pour Café Gourmand.
Il n'avait pas refait une chanson pour Les Enfoirés, je ne sais plus, mais... Parce que aussi, il a été longtemps dans Les Enfoirés,
oui,
il s'est énormément investi.
Moi, j'ai appris, il ne me l'avait pas dit, mais... Parce qu'il me dit, bon, j'arrête. Parce qu'il me dit, tu sais combien ça me prend de l'année Les Enfoirés? Ça me prend 6 mois. Entre... réécrire des chansons, entre les arrangements, entre faire répéter toute la clique.
Et parce que c'était lui qui était le chef d'orchestre.
Ah, il avait pas de contrat signé avec Coluche ni avec sa femme, c'est une poignée de main, lui. Je fais une promesse de Jean-Jacques, à ça, franchement, j'ai toujours été estomaqué, il revient jamais sur ce qu'il a dit. Et c'est lui qui décidait des dialogues, des costumes, de tout. Il me dit, mais c'est un truc de dingue, je me suis engagé. Mais voilà, c'est une belle cause. Je pense que sans lui, enfin, les Restos du Cœur ont quand même vraiment vécu et survécu grâce aussi au travail de Jean-Jacques. C'était un effort terrible et ça, c'est admirable. Parce qu'il avait aussi, il faisait beaucoup de choses à côté, hein. Quand il était en train de travailler pour Céline Dion, pour Johnny, pour tout le monde, il me dit, j'ai pas le temps de dormir. Je dors très peu et il faut avoir la santé, hein, quand même.
On va se retrouver d'ici quelques minutes toujours avec Jean Binder qui est avec vous aujourd'hui sur EDFM Radio. On parle de Jean-Jacques Goldman, on parlera, oui, un petit peu plus quand même de vous dans un instant sur votre premier album qui est sorti en novembre dernier. Et je vous propose d'écouter justement de cet album le morceau Une autre histoire. EDFM Radio, Jean Binder, votre invité aujourd'hui.
Allez plus loin. Après les routes où tout prend fin, même les doutes, très loin d'ici où tout s'achève, dans un pays où naissent les rêves, plus rien à faire sur cette terre, rêver d'ailleurs. Loin des clameurs, marcher encore, suivre le nord, et tout quitter, sans se retourner, recommencer. Une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire, recommencer. Une autre histoire. Une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire. Tout effacé de nos mémoires, se détourner de nos miroirs. Et revenir au tout départ, jusqu'au désir d'encore y croire. Changer les lois auxquelles on croit, et la lecture des saintes écritures. Poser les armes, sécher nos larmes, briser nos chaînes. Nos ailes, recommencer une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire, recommencer une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire. Une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire, recommencer. Une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire.
IDFM Radio, nous sommes toujours aujourd'hui avec Jean Binder à l'occasion de la sortie de son premier album. On peut donner votre âge, vous avez à peu près 70 ans.
Un peu plus.
Un petit peu plus, en tout cas, vous ne le faites pas.
Oui,
j'ai l'âge de Jean-Jacques. Et vous avez décidé de sortir un album là, maintenant, et Jean-Jacques Goldman, ça a été un de vos meilleurs amis d'enfance. Vous aviez 16 ans, vous avez monté un groupe de rock dans les années 70.
Deux groupes, même un premier groupe qui n'avait pas de nom, après Phalanster. Et puis après, on s'est mieux connu dans la chanson. En fait, pour résumer, si je suis là, c'est quand même un peu grâce à lui. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de tout. Des groupes, il m'a fait rencontrer le rock, le blues. On a même fait du gospel avec Red Mountain Gospelers en parallèle de Phalanster où on jouait tous les dimanches matins dans les églises. Et c'est le curé de l'église Saint-Joseph à Montrouge qui a produit notre premier disque. Donc c'est quand même notre premier disque qu'on a fait ensemble.
Vous avez suivi Jean-Jacques Goldman de toute façon sur ses différentes étapes, voilà. Même quand il a été en trio avec Carole Frédéric et Michael Jones.
Non, on se côtoyait.
Oui, mais vous l'aviez toujours quand même en ami.
Mais là, voilà, des fois il me disait tiens, téléphone à machin, Gold. Parce qu'il m'appréciait comme auteur-compositeur. Bon. Je suis pas devenu. On décide pas de devenir une star, même si on fait quelques titres pas trop mauvais. Et voilà, il m'a toujours aidé, donné du coup. Non, on est resté amis. Et c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que il avait un emploi du temps. Il avait à peine le temps de dormir. Le peu de temps qui lui restait, il le consacrait à sa famille, parce que pour lui, c'était une priorité sa famille, avec ses premiers enfants. Il me passait toujours un petit coup de fil. Comment tu vas? Tiens, on se voit, on peut prendre un café, on peut déjeuner. Ça, c'est Jean-Jacques. Et donc, pour revenir à votre question, si j'avais pas connu, je ne serais pas là, parce que bon, il m'a fait connaître le rock. Ensuite, il m'a appris à chanter, il m'a appris à interpréter avec les premiers titres qu'il m'a donnés. Et puis moi, je commençais timidement à composer. Lui avait déjà des années-lumière de composition, donc j'étais face à Mozart. Moi, j'avais un prof, donc il m'expliquait, il me dit, tu vois, là, quand tu passes au refrain, c'est pas la peine d'aller te faire chier sur un truc de transition, tu reviens. Enfin, il me donnait des trucs super efficaces que lui déjà avait maîtrisé complètement. Et je commençais à composer. Et il m'a aidé, il me dit, c'est pas mal, vas-y, continue. Il m'a toujours poussé à composer. Et donc, j'ai vécu de la musique, de chansons, de musique de pub, etc. Je dirais un petit peu grâce à lui, parce qu'il m'a poussé à faire ça. Et alors, je dirais pas que c'est un hommage et je lui dédie cet album, mais si cet album existe, que les chansons sont pas trop mal faites, il y a un peu de lui derrière.
Vous connaissez un petit peu Michael Goldman ou pas du tout?
Oui, bien sûr. Oui. Je l'ai même vu naître. D'abord Caroline, parce qu'en fait, ce qui nous a aidé avec Jean-Jacques quand il venait de se marier, il avait quitté Taifeng et il venait d'acheter une maison à Montrouge avec une cave, un sous-sol. Et là, c'était génial. On a installé un petit home studio et toutes les maquettes, on les faisait sur un Revox. Vous voyez, à l'époque.
Oui. J'en ai un encore dans mon bureau.
Donc pour faire.
Oui, tout à fait. Pour revenir en avant, en arrière.
J'ai toutes les maquettes d'époque qui sont un peu pourries. Mais c'est ce qu'a. Lui, toutes ces maquettes, il suffit d'un signe, il l'a fait sur ce Revox. Et donc, j'avais même les clés de sa maison, parce que lui, quand il travaillait encore chez ses parents à Sport 2000, et l'après-midi, moi, j'avais du temps, il m'avait laissé la clé, puis hop, moi, je m'inquiétais aussi de mon côté, je faisais des tas de trucs, des tas de chansons, et qu'il m'encourageait à faire. Et donc, j'ai assisté, son premier enfant, ça a été Caroline, ensuite, ça a été Michael, et ensuite, Nina. Après, il y a eu un deuxième mariage, mais là, je connais moins l'histoire. Et donc, voilà, on était tous avec Catherine, sa première épouse. Enfin, on était tous des amis d'époque. Tout le monde était là aux répétitions, on répétait chez ses parents, c'était très sympa. Voilà, c'était à la fois une vie musicale, une vie de famille, une vie de copains.
En tout cas, vous gardez de très très bons souvenirs de cette période.
Je lui dois tellement musicalement. Il m'a tout déclenché dans la tête. Et alors peut-être que j'avais ça en moi, mais comme il sait faire avec les gens, il sait faire avec tout le monde, il l'a fait avec Céline Dion, il sait déclencher l'envie de faire, il sait déclencher le meilleur de vous-même. Il a ce talent-là, et voilà.
Parlons donc un petit peu plus de votre album, comment il a été conçu. Donc il est sorti en novembre dernier, je le reprécise, il s'appelle Une vie plus tard. Il y a 11 chansons. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Qu'est-ce que vous racontez plus précisément dans cet album?
Je dirais qu'il est pas... Au niveau du texte, je ne sais pas si vous l'avez un petit peu...
J'ai surtout écouté et je me suis attardé sur la chanson Une autre histoire.
Voilà.
Qui est le premier single officiellement.
Mais arrivé à un certain âge, on a pas forcément, j'avais envie de dire des choses pas forcément follement gaies. Donc, je dirais pas qu'il est un peu pessimiste, mais il est un petit peu réaliste, il dit des choses un petit peu dures. Il y a une chanson que je voulais absolument mettre sur cet album, c'est comment lui dire, en fait, c'est comment lui dire je l'aime plus, et passer un certain âge, parce que des chansons d'amour, il n'y a que ça. On s'aime, on s'aime. Mais, je pense que j'ai eu beaucoup de coups de fil et beaucoup de réactions vis-à-vis de cette chanson, où plein de gens, passé la cinquantaine ou la soixantaine, m'ont dit, ben, on a tous vécu ça, mais on n'ose pas le dire. C'est-à-dire qu'on a vécu, on s'est marié avec une femme, puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'aime plus la personne. Et on ne sait pas le dire. Donc voilà, j'ai fait cette chanson. Si vous avez la gentillesse de l'écouter, vous comprendrez. Mais là, vous êtes un petit peu jeune. Et puis, une chanson aussi, il y aura. Il y aura, c'est quand les choses vont très, 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 très mal dans la vie. J'explique ça. Et bon, on peut toujours se... Il y aura toujours un matin qui sera le premier du monde. Il y aura toujours une main pour vous faire entrer dans la ronde. Bon, ça résume le truc. Il y a un petit peu d'espoir. Mais... Je suis pas. Et puis, il y a une chanson aussi dont le texte est un peu difficile, mais j'étais fier de l'écrire, qui s'appelle Si j'avais pu savoir. Et là aussi, avec l'âge, on perd tous des proches. Et donc, c'était très difficile de parler de la mort sans employer le mot mort, etc. Donc, d'avoir des images où chacun puisse comprendre immédiatement. Voilà. Donc, j'ai fait quelques textes dont je suis assez fier parce que j'avais envie de les faire comme un. Pour moi-même déjà, pour me dire je suis capable de dire ça. C'est pas forcément dans le format des chansons habituelles qui doivent être plus gaies, entraînantes, etc.
Et musicalement, vous aimez bien aussi un petit peu vous lâcher de temps en temps, notamment sur la chanson Tout va très bien. Là, c'est plutôt un rythme électro.
Oui, voilà. Voilà, c'est plutôt un rythme électro.
Pourquoi vous avez
D'ailleurs,
choisi?
Entre parenthèses, il va y avoir des projets électro bientôt, mais je.
Parce que si on remonte en arrière, par rapport à tout ce que vous avez vécu avec Jean-Jacques Goldman, bon, c'est pas forcément
non, c'est
l'image.
Pas du tout. Comment lui dire je l'aime plus, ou si j'avais pu savoir, ou même cette chanson, une autre histoire. On est plus dans je dirais, dans la variété goldmanienne.
Oui.
Est-ce que tout va très bien? Non, c'était. Je l'écris rapidement, je me rappelle, j'ai écrit dans le métro, comme ça j'avais envie, parce que je me suis dit, je vais un petit peu dénoncer, c'est vrai que tout ne va pas très bien. Donc je pensais comme ça, cette vieille chanson qui s'appelle « Tout va très bien, Madame la Marquise », et en fait, on vit un petit peu ça, tant socialement que politiquement, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... J'avais envie de dire des choses avec les mots qu'on prend que dalle, à coup de couteau on se parle. Vous voyez, j'ai voulu faire, bon, j'ai aussi un petit problème de maladie, un cancer dont je me suis très bien sorti, donc cancer un jour, cancer toujours. Donc je me suis lâché dans des petites choses un petit peu difficiles dans la vie et que tout le monde peut rencontrer. Et puis voilà, j'ai fait un remake de Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, pas de quoi s'inquiéter, tout va très bien, dormez. On nous endort un peu, enfin bon là je ne suis que le reflet un petit peu des grands médias qui essayent de nous faire passer, de nous endormir un peu.
Merci.
Mais gentiment, voilà, je suis pas révolté, mais c'est des petites idées comme ça que j'avais, voilà, c'est... Il n'y a pas d'idée maîtresse peut-être dans l'arrangement, si dans la couleur, bien sûr, il faut qu'il y ait une couleur d'album. Mais dans les textes, même dans les musiques, il n'y a pas, il n'y a pas une direction. Dire, je vais faire que du que Stempola, que du électro, que de ci, que de ça, que des chansons d'amour lentes, belles et voilà. Enfin.
Non, vous vouliez pas choisir forcément un fil conducteur précis ou particulier.
Oui, et puis parce que j'ai pas l'ambition d'être de faire chanteur à mon âge. J'avais juste l'ambition de me faire un peu plaisir et d'être égoïste et en fait de dire, bah tiens, je vais faire un truc pour moi que j'avais jamais fait. Bah, je fais comme je veux. J'ai pas de stratégie, je m'en fous. J'ai tant de chansons, une vingtaine d'écrites, on en a sélectionné quelques-unes avec mon ami Ludovic Beyer, qui est mon arrangeur, qui est un réalisateur formidable.
Accordoniste, entre autres.
Entre autres, très connu dans le monde du jazz. Mais oui, il fait pas que... Oui, je crois qu'il est venu ici, d'ailleurs.
Ah oui, à plusieurs reprises, oui, tout voilà. à fait.
D'ailleurs, il devait venir ce matin, parce qu'il me dit, oh, je vais t'accompagner, j'aime bien Radio Anguin. Et puis il me dit, oh non, parce qu'il a... Il est tellement pris.
Ça aurait été avec plaisir, en tout cas.
Bah oui, bah c'est un charmant, puis c'est un ami depuis de longue date. On a fait pas mal de... Même pour d'autres personnes, on a fait des titres.
Et je sais beaucoup plus, travailler avec il habite... Parce que je crois qu'il est né sur le Val d'Oise. Ah si, il est toujours sur la région. Oui, ouais, tout à fait.
Oui, il avait déménagé. Moi, je l'ai connu avant. Il était, je sais plus où, toujours dans cette région. Puis là, il est à Pontoise. Il est quand même prof de conservatoire, dans deux conservatoires. Donc, c'est pas... Moi, j'apprends beaucoup musicalement avec lui. Moi, je suis un amateur en musique. Hein. Je suis avant tout un mélodiste. Je compose comme ça. Mais après, les arrangements, c'est quand même un métier. Hein. Chacun son job.
Eh ben, merci beaucoup, Jean Bader, d'être venu aujourd'hui sur EDFM Radio. Votre premier album, Une vie plus tard, est sorti en novembre dernier. Disponible, on peut, sur des plateformes.
Oui, vous l'avez... sur toutes les plateformes.
Bah oui, ok.
Et puis, sur YouTube, je vois qu'il est... On peut le voir sur YouTube, il est disponible sur toutes les plateformes.
Bon, bah, c'est génial. On va écouter encore un petit extrait, donc, de la chanson, Une autre histoire sur EDFM Radio avec Jean Bader. Merci encore.
Merci à vous.
Bon retour surtout. À vous, à Paris.
Oui, là, je me partage entre la Normandie et Paris. Là, je suis à Paris en ce moment. Et, voilà, je fais rentrer. C'était vraiment.
Très bonne journée. À bientôt, Jean Bader.
À bientôt, Christophe. Il y aura des surprises et je vous en informerai.
Ah, il y aura d'autres choses à venir. Bientôt. Plein de projets pour cette année 2026.
Oui, début juin.
Très bien. On se tient
ça
en courant.
Ça permettrait de...
Oui, tout à fait. De reprendre contact.
C'est gentil.
Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci d'être venu.
Une autre histoire recommencée. Une autre histoire Une autre histoire. Tout effacé de nos mémoires, se détourner de nos miroirs et revenir au tout départ. Jusqu'au désir d'encore y croire, changer les lois auxquelles on croit, et la lecture des saintes écritures, poser les armes, sécher nos larmes, briser nos chaînes.